Nous sommes le mardi 28 mars 2023, il sonne 11h. Je vous imagine être déjà en place pour écouter le club La Presse. Eh bien, le rendez-vous est bien tenu avec déjà autour de moi deux confrères journalistes et une personne ressource. Les techniciens sont déjà également à leur poste. C'est Thomas Datevi et Jérôme de Akucha. Et à tous les auditeurs, à toutes les auditrices du club La Presse, que ce soit sur Canal FM, sur Radio Lumière, sur Radio La Paix, La Voix des Plateaux, sur Radio Centrale FM, sur Radio Sama FM, sur Radio Daoul, sur Radio Courtoisie ou encore sur tous les canaux et autres médias numériques qui nous transportent un peu partout dans le monde, nous vous saluons. C'est une tradition que nous partions toujours d'une sagesse, d'une pensée du jour pour nous inspirer. Et aujourd'hui, la phrase dit que l'indifférence comme préférence et c'est le mépris qui prend vie. Encore une fois, l'indifférence comme préférence et c'est le mépris qui prend vie. Au club de la presse de ce mardi, nous allons parler naturellement culture. Et nous sommes mardi, mais nous allons également évoquer le match de la quatrième journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est dans quelques heures que les éperviers vont descendre sur la pelouse à Kégué pour affronter les étalons du Burkina Faso. Et puis également, sur les traces, les journaux nous ramènent sur les traces du dernier séminaire gouvernemental à Kpalimé, le quotidien des Togolais au rythme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et puis le Togo entre la francophonie d'un côté, le Commonwealth de l'autre. Doit-on choisir ou le Togo doit-il se comporter comme un bon mari polygame, comme nous savons l'être au Togo? Voilà le menu, et pour débattre de tout ça, la personne ressource, il s'appelle Innocent Ouledja Kagbara, il est député du parti PDP à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur le député, doublé de l'écrivain ou bien de l'essayiste, d'aucun dirait même du polémiste, dans le débat que vous animez sur l'appartenance du Togo à la fois à la francophonie ou au Commonwealth. Voilà pourquoi nous vous invitons et nous vous remercions.
C'est un plaisir.
Et on ne peut pas avoir un député à un plateau du club La Presse et ne pas chercher à sentir son nez ou bien sa bouche sur le quotidien des Togolais, d'autant plus que nous sommes à quelques semaines, à quelques mois des élections qui sont annoncées, élections régionales ou élections législatives. Vous comprenez que si ce n'est pas moi, ce sera de la part de mes confrères, mais les questions vous viendront. Vous êtes prêt, monsieur le député?
Nous sommes là pour ça.
Merci. Eh bien, avec le député Eric Hugues Pakoudjo Johnson, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour honorable.
Oui, bonjour.
Bonjour chers amis, et auditrices et auditeurs de Canal FM. Sass, je croyais que tu étais le seul innocent.
Non, lui-même sait que lui là est un innocent d'emprunt, le seul innocent, le député même lui-même le sait.
Allons-y.
Eh bien, le confrère annoncé par Eric, c'est notre Monchoso national, Dieudonné Korlakna, bonjour.
Bonjour, chers SAS, auditrices, auditeurs de Radio FM, toutes nos salutations.
Merci, je rappelle que l'indifférence comme préférence, et c'est le mépris qui prend vie pour dire que nous ne saurions jamais nous montrer indifférents devant les problèmes autour de nous, devant le sort de nos compatriotes, de nos semblables. N'est-ce pas, monsieur le député? Est-ce qu'on peut soupçonner un député d'être indifférent devant le quotidien de ses compatriotes?
Je pense que n'importe quel Togolais ne saurait être indifférent devant la réalité de nos compatriotes. Donc, c'est pas une affaire de députés, mais c'est une affaire de tous.
Merci.
Et je suis de ceux qui pensent véritablement que la première révolution que nous devons faire, c'est une révolution au niveau des mentalités. C'est s'approprier le pays, s'aimer le pays. Et on ne peut pas être heureux seul. Donc, pour moi, le bonheur doit être forcément partagé.
Merci. Commençons par l'essayiste avec cet ouvrage que vous avez rendu public en 2022 intitulé « Le Togo et l'usure de la francophonie, la nécessité de rejoindre le Commonwealth ». Je me rappelle que à la parution de cet essai, nous avions convenu que je vous reçoive, mais l'agenda ne l'a pas permis. Alors, voulez-vous nous rappeler ce qui vous a mû pour écrire et publier cet essai?
Non, simplement, je suis parti d'un constat que les pays francophones sont beaucoup plus instables. Et si la francophonie nous avait permis d'atteindre nos objectifs, je pense que dans les pays francophones, il y aura moins d'instabilité, moins d'élections contestées, moins d'aide au développement parce que nous allons nous assumer. Donc, ça va vous étonner de dire, j'aime la France, j'aime la francophonie, j'aime tout ce qui en partage le français, mais il y a des actes et une façon de faire dans un certain nombre de pays francophones qui ne nous ont pas permis de nous émanciper. Et c'est contre ces pratiques-là que nous nous insurgeons.
Alors, deux pratiques, par exemple, contre lesquelles vous vous élevez?
Oh, mais vous savez, non, c'est juste un constat. Hein. Les pays, depuis les indépendances, les pays sous influence anglophone ont eu un rapport avec la Grande-Bretagne de collaboration. Il n'y a pas eu d'ingérence dans les histoires d'élections. On n'a pas imposé des chefs d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. On n'a pas envoyé des mercenaires. Ils sont pas forcément liés par la monnaie. C'est des gens qui ont une certaine capacité de pouvoir gérer leur monnaie, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir réfléchir. Et il y a eu l'alternance sans trop de soucis. Mais pratiquement dans tous les pays francophones, c'est des pays en crise. On parle de la monnaie. Quoique sur la question de la monnaie, la parité fixe, moi, ne me dérange pas. Mais avoir des gens qui nous ont colonisés dans nos institutions, de décision de la monnaie, parce que pour moi, la monnaie, c'est une question de souveraineté. Donc, nous ne pouvons pas les avoir dans des conseils d'administration au niveau de la BCAO et dire que nous sommes souverains. C'est sur ces petites questions que moi, je dis non. Maintenant, qu'on décide nous-mêmes souverainement de garder la parité, ça, c'est notre affaire. Qu'on décide de changer la monnaie, ça, c'est notre affaire encore. Qu'on décide que nous voulons avoir des Chinois pour l'agriculture, des Vietnamiens pour l'enseignement, des Israéliens pour la sécurité, des Russes pour l'engrais, c'est notre décision à nous, qu'on nous respecte. Pourquoi est-ce que par exemple, vous prenez une décision des Nations Unies ou un vote des Nations Unies, à chaque fois qu'un pays africain prend une décision, il faut qu'il se justifie. On n'a jamais vu un pays européen prendre une décision et venir expliquer pourquoi il a pris cette décision. Mmh. Vous voyez, c'est des petits exemples pour dire que nous n'avons plus. Et puis nous, c'est pas, on n'a même pas 17, 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans. On ne sait pas si on est vraiment majeur. On est majeur depuis.
Nous avons au moins 63 ans pour ce qui concerne le Togo.
Oui, donc on est majeur. Donc bon, laissez-nous faire nos choix. Même si nous nous trompons, nous allons reconnaître qu'on s'est trompé. Puisque nous reconnaissons que nous avons des difficultés. Nous ne disons pas que c'est parfait. Nous reconnaissons que notre démocratie est en construction. Mais on n'a qu'à nous laisser faire nos choix. On n'a qu'à nous laisser s'entendre entre nous, acteurs politiques. On n'a qu'à faire en sorte que les prix de nos matières premières nous permettent de nous développer sans que nous ayons à tendre la main pour l'aide au développement. Merci. On n'a qu'à payer juste nos matières premières à leur juste prix pour que nos filles puissent aller à l'école, nos filles puissent être épanouies, que nos hommes puissent ne pas rester à la maison jusqu'à 38 ans parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Vous tous, vous restez dans la maison familiale parce que personne n'a l'emploi. Pour que nous puissions libérer les énergies, créer un environnement propice à l'investissement, à la création d'emplois, pour que nous puissions nous prendre en charge. Nous, notre bonheur, c'est ça. C'est manger 3 repas, avoir une petite voiture, avoir une petite maison. Les histoires de milliards, pour le moment, ça ne nous regarde pas. Nous, voilà notre bonheur.
Merci. D'aucuns y verraient la réalité qui est la suite logique de la colonisation. Nous nous rappelons que en Afrique, la France jacobine avait pratiqué l'administration directe pour tenter d'assimiler ses colonies à la métropole, alors que le gouvernement de sa très gracieuse majesté avait privilégié le indirect rule, ce qui fait que les pays anglophones ont une certaine autonomie d'audace aujourd'hui, alors que Hein, les pays francophones, c'est comme l'esclave libéré qui se croit toujours obligé d'aller demander la permission à son ancien maître pour aller faire pipi ou bien même pour aller faire ses besoins. Oui, Eric.
Alors, l'honorable disait tout à l'heure de nous laisser faire nos choix. Et quand on va se tromper, on dira quand même qu'on s'est trompé. Oui. C'est le cas, par exemple, du Ghana qui avait pris la décision de rompre ses relations avec les institutions de Bretton Woods, oui. Dont surtout le FMI, en l'occurrence. Et donc, finalement, et après 2 ans, 3 ans d'expérience, le pays s'est rétracté pour revenir maintenant demander l'appui du même FMI. Et donc, ça, c'est un exemple palpable de ce que l'honorable est en train de dire.
Merci. Rappelez encore le titre de son essai, publié en 2022, « Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth ». Monsieur Kagbara, il ne sait pas. Il ne veut pas dire que c'est vous que le Togo a écouté, mais depuis juin de 2022, le Togo a été officiellement admis au Commonwealth et le 13 mars dernier, 13 mars 2022, le Togo a pris part à la journée annuelle du Commonwealth pour dire que le Togo est aujourd'hui membre à part entière du Commonwealth. Mais avant le Commonwealth, le Togo est membre fondateur de la francophonie et nous apprenons d'ailleurs que la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Chrysoula Zakharopoulou, est annoncée pour arriver à Lomé le 31 mars. Elle va séjourner chez nous du 31 mars au 1er avril. Alors, comment, c'est vrai que vous êtes député, vous êtes essayiste, mais comment est-ce que vous voyez le Togo s'assumer pleinement à la fois comme membre de la francophonie et membre à part entière du Commonwealth. Monsieur Kagbara.
On s'assume.
Comment ?
On s'assume, on sait qui nous sommes, on s'assume, on fait nos choix, on s'assume. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas des pays anglophones qui veulent rentrer dans la francophonie ? En quoi ça gêne ?
Il y en a d'ailleurs qui sont... Mais le Ghana est un
le
pays
Ghana,
de la
par
francophonie.
Exemple, je crois même le Nigeria.
Donc oui. En quoi ça gêne ? En quoi est-ce que un pays africain qui décide de rentrer dans le Commonwealth, en quoi est-ce que nous devons nous justifier? C'est juste le multilatéralisme, c'est juste la diversification de partenariats. En fait, c'est aussi simple que bonjour. C'est même bonjour au fond Yodéa, ça s'arrête là-bas. Ça s'arrête là-bas. Nous, si les gens veulent nous aider, ils allaient nous aider. Si on devait être développé, on serait déjà développé. On ne parlerait même plus d'aide au développement actuellement. Il faut qu'on comprenne aussi que dans un système de dominant à dominé, tant que vous êtes le dominant, si vous vous affranchissez, lui, il n'existe plus. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on prenne conscience de notre statut, de notre identité. Et nous avons plus d'opportunités, puisque c'est maintenant que nous sommes en train de construire nos pays. Il y en a qui sont arrivés à un stade où ils ont des difficultés. C'est maintenant que nous sommes en train de construire nos pays. C'est nous qui sommes avantagés. Donc on n'a qu'à laisser nos chefs d'État tranquilles. On n'a qu'à les laisser faire leur choix. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent prendre une décision, il faut faire attention à gauche, à droite, alors qu'eux, ils n'ont pas ce souci. Eux, il suffit que le conseil des ministres décide, mais ici, on va te dire non, si tu fais ça, tel va se fâcher, donc fais attention parce que nous avons... Non. Il faut... C'est ce que je dis. Moi, je ne suis contre personne. Je veux juste qu'on nous laisse décider de ce que nous voulons. Qu'on nous laisse décider de la vie de près de 8 millions de Togolais. Où est-ce que nous voulons aller? Avec qui nous voulons commercer? C'est quoi nous voulons mettre dans dans nos manuels d'enseignement? Qui nous sommes? Comment nous voulons nous habiller? Comment identifier un Togolais à l'extérieur? La fierté nationale, le patriotisme, l'instruction civique. Pour moi, c'est une priorité, l'instruction civique. Qui nous sommes comme
Merci.
Togolais?
Merci. Kagbara Innocent Ouledja, apôtre du multilatéralisme politique, économique, culturel. Linguistique. Alors, Togo à la fois membre de la francophonie,
oui.
Également membre du Commonwealth.
Et n'oublions pas, on s'entend avec les deux.
Il y a une réalité à la fois historique, sociologique, politique et économique. c'est que nous avons deux grands voisins autour de nous, voilà. Le Ghana ici et le Grand Nigeria.
Tout à fait.
Et donc, c'est dire que nous devons inciter nos enfants, nos jeunes frères et jeunes sœurs à apprendre l'anglais. Et il y a même l'Institut Confucius qui enseigne le chinois à l'Université de Lomé. Et de plus en plus de Togolais qui s'intéressent à l'arabe, à l'espagnol, pour ne pas dire au russe. Montchosso, c'est les réalités du moment si le Togolais veut assumer son multilatéralisme.
Mais peut-être avant de placer mon mot, je voudrais même m'intéresser à la citation du jour. Mais la citation telle que libellée, telle que moi je la comprends, mais c'est dire que les hommes sont fondamentalement et naturellement différents. Et du coup, la vie elle-même doit être un effort permanent de dialogue, de recherche d'entente. Et c'est en cela que je rejoins tout à fait le discours de l'honorable pour dire effectivement que il y a plusieurs décennies quand même que nous autres, en tout cas, ou tout un continent subit des pressions, subit beaucoup de choses, et il est temps, et nous vivons d'ailleurs plusieurs vagues aujourd'hui, un peu partout en Afrique, plusieurs discours qui s'inscrivent dans la veine du discours du député qui appelle justement l'Afrique à s'ouvrir. Et ça, je suis curieux de savoir, cher honorable, votre discours. Est-ce que vous portez ce discours aujourd'hui en tant que Togolais lambda ou en tant que député qui a une parcelle de pouvoir? Parce qu'en tant que député, alors vous avez beau être un élu, mandaté par le peuple, vous avez quand même une parcelle de pouvoir en tant que député. Est-ce que vous portez ce discours en tant que député, en tant que d'ailleurs leader politique, susceptible de devenir Premier ministre, président de la République un jour, ou en tant que Togolais lambda?
En tant que Togolais lambda. Non, pour le moment, je ne suis pas encore là-bas.
Merci.
Tant que Togolais lambda, oui. Fier de l'être, je suis Togolais. Je suis, peu importe ce qu'on dit sur le Togo, on l'assume. Merci. C'est ce que nous sommes. Et nous sommes fiers de l'être. Et là où nous voulons aller, nous voulons faire 3 repas par jour, avoir des infrastructures et dire « venez nous visiter ». C'est tout ce que nous voulons.
Merci. Je rappelle que votre essai intitulé « Le Togo et l'usure de la francophonie » de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Alors, un auditeur voudrait savoir si l'essai est toujours disponible sur la place togolaise, monsieur Kagbara.
Oui, toujours.
Au prix de?
Dans les librairies, je crois que c'est 3 000. Hein.
3 000 francs CFA.
3 500.
On gagnerait à le lire. Oui. Et nous continuons avec la culture et les arts, les festivals, avec ce que fait chaque semaine le confrère L'Union, à savoir nous rappeler les manifestations comme le Togoville Jazz Festival qui va avoir lieu du 12 au 23 avril prochain. Eric?
Oui, c'est la 9e édition de ce festival qui appelle quand même à remémoriser la culture africaine à partir du jazz. Puisque vous savez, on a une idée de ce genre musical. C'est une musique qui est en pleine mutation. Aujourd'hui, quand on parle de jazz, tout le monde dit ouais, c'est une musique américaine. Certes, mais c'est né de quelque chose, de quelque part. Et donc, cette musique-là est en train d'évoluer. Et ce festival-là qui se faisait à Baudrefort généralement,
à Togoville,
va s'ouvrir jusqu'au Bénin voisin. Mm-hmm. Donc, il y aura des scènes qui vont s'ouvrir à Lomé, à Togoville et à Cotonou.
À Nera aussi,
avec l'appui d'un groupe de jazz suisse. Et ça s'appelle la Vienne Jazz Club, je crois. Mm-hmm. Et donc, ça va permettre de sentir ce que c'est que cette musique-là, ce genre musical que moi, personnellement, je dis c'est une musique des opprimés, et des gens qui voulaient quand même s'exprimer culturellement. On est en train de parler de beaucoup de culture, de beaucoup d'identité ici. Et je crois que c'est un festival auquel tout le monde est invité à quand même aller pouvoir écouter. Et parce que c'est pas seulement le jazz américain qu'on va écouter, mais la musique traditionnelle qui a quand même s'est parlé et le swing, hein, comme on dit avec la guitare qui va tourner beaucoup plus.
Eh bien, le Togoville Jazz Festival, qui est déjà à sa 9e édition, du 12 au 23 avril prochain, à la fois à Togoville, mais également à Nekho, Lomé et Cotonou. Une trentaine d'artistes du Togo et d'ailleurs seront de la partie. L'autre nouveauté, c'est ce partenariat avec le Festival de Jazz de Vienne, Togo Créatif, qui est un programme de l'Union Européenne, également l'Institut Français et le Goethe Institut de Lomé. Alors, de ce Togoville Jazz Festival, continuons avec la 3e édition du festival à Blodezan. Ce sera du 21 au 29 avril. Au menu, il y aura des contes, peut-être en concomba ou bien en sola. Et là, on pourra faire appel au député Kabara pour nous traduire les contes à la fois en concomba. Parce que c'est rappelé que M. Kabara, vous êtes... un métis,
voilà,
n'est-ce pas?
J'adore le métissage.
Aussi bien le sola que le concombre, vous vous assumez.
J'adore le métissage.
Merci beaucoup. Eh bien, la 3e édition du festival à Blonaison, il y aura des contes, il y aura des danses traditionnelles, il y aura de l'humour, il y aura de la musique identitaire. Ce festival qui va avoir lieu à Lomé, à Kpalimé, mais également à Haute, Eric.
Chez toi, oui. C'est du 21 au 29 avril. Hein. Ça a déjà commencé. Et donc, je pense que, très sincèrement, c'est également ici une musique identitaire, hein, comme ça a été annoncé par les affiches. Et donc, les organisateurs de ce festival-là, au fait, veulent tout simplement que tout ce qu'il y a comme musique traditionnelle de chez nous. Ça, j'avoue que la dernière fois, quand j'étais à Sokodé, dans le cadre du FOPAT Région Centrale...
Le Forum des producteurs agricoles.
Ça, très sincèrement, je me suis senti un peu acculturé. Tout simplement parce que j'ai découvert des chants, des danses, que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est vrai qu'il y a des festivals, il y a des trucs qui se passent, mais tous ces groupes-là qui ne sont jamais invités à participer à tous ces multiples festivals et tout, il faut qu'on commence par faire quelque chose. Et là, c'est le ministère de la Culture qui doit le faire. Ça, pour ma première fois, j'ai su qu'il y a des danses que les femmes ne font pas dans une certaine région de notre pays. Oui. Il y a également des tambours que les hommes ne touchent pas, uniquement les femmes. Mais c'est fabuleux. J'ai découvert des choses. C'est au cours de ces genres de festivals qu'il faut ramener tous ces gens-là. Et donc, je dis, si on va à Rotué, certainement, c'est pour produire quand même un groupe de chez toi, hein, pour valoriser ta culture.
Attendons seulement que le festival Abloraisan démarre à l'étape de Haute. Vous êtes les bienvenus. Eh bien, mon Tchosso, on a parlé de livres avec l'essai du député Kagbara. On a parlé des festivals musique, conte, danse traditionnelle. Et on peut ajouter tous les pans de la culture. C'est pour nous ramener à cette interview que publie aujourd'hui le Medium. C'est une interview qu'a accordée au médium l'ami Syriac Kodjo-Nusuglo, que tu connais très bien. Syriac Kodjo-Nusuglo, qui est gestionnaire du patrimoine culturel, il est expert de la diversité culturelle. Eh bien, Nusuglo nous dit que la culture est un gisement d'emploi et de richesse. Mon Tchosso?
Non, mais c'est si bien dit que je ne sais même pas quoi y rajouter. Mais vous savez, quand l'honorable disait tout à l'heure qu'il est adepte du métissage.
Non, il n'est pas adepte. Lui-même, il est produit de métissage.
Il est un produit de métissage et il est adepte du métissage. J'ajouterais que le monde, que ce soit le monde présent ou le monde de demain, c'est le monde du métissage. Mais quand l'honorable le défend si bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre par exemple le libéralisme, le communisme, etc., mais nous n'avons que des choix à faire et nous sommes libres. Et d'ailleurs, nous empêcher justement de choisir, d'essayer toutes ces écoles-là, mais c'est nous faire un sacré mal. Je pense que nous vivons un siècle où il faut faire appel justement à la construction des ponts. Il est temps de construire des passerelles et il n'y a que ça qui pourrait permettre même aux hommes d'aujourd'hui de se comprendre. Mais vous voyez par exemple, même ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qui cristallise toutes les attentions, mais c'est une guerre même de culture économique, de culture de gouvernance, etc. Où on a l'impression justement que la guerre froide n'a jamais, ne s'est jamais arrêtée. Mais oui, parce qu'il y a d'un côté le bloc capitaliste qui défend à coup d'armes et tout son idéologie, et il y a le bloc communiste, socialiste, on va dire, etc., qui défend aussi. Mais vous savez, tout ça, en vérité, ce sont des cultures. Ce sont des cultures. Parce que justement, datant de plusieurs siècles avant nous, et qui sont d'une certaine manière transmises de génération en génération jusqu'à ce jour. Mais quand Poutine défend par exemple toute sa chapelle, ne nous disons seulement pas que Poutine est en train de défendre une idéologie, mais parce que derrière, il y a toute une culture qui est défendue.
Merci.
Et mais nous, il nous semble d'ailleurs même que on n'est même pas encore arrivé là parce que on a été tellement étouffé. Quand Eric dit tout à l'heure justement que il y a de tels ponts culturels dans le fond du Togo que nous ne connaissons pas parce qu'il n'y a jamais eu de lumière sur ces pans-là. Mais il faut y réfléchir, justement.
Il faut y réfléchir et prendre conscience de nous assumer. Et à mon niveau, l'une des premières prises de conscience, c'est que j'ai ici devant moi Pakoudjo, j'ai Mounchoso, j'ai Ouledja et j'ai Kodjo. Pour dire, nous sommes d'abord des Togolais avant d'être innocents, Dieudonné, Eric et autres. Mm-hmm. Monsieur le député, c'est quand nous nous assumons comme notre nom que nous pourrons aller à notre culture, parler notre langue, danser nos danses traditionnelles et aller dans nos villages avec fierté, monsieur le député.
Tout à fait. Moi, il y a beaucoup qui n'ont plus un nom authentique sur leur acte de naissance. Je pense que c'est une erreur. Il faut forcément avoir un nom qui nous identifie et on sait d'où on vient. Parce que les noms aussi, en Afrique, on ne les donne pas au hasard. Ça vous suit. Donc, je pense que je suis fier d'être Oulidia avant d'être innocent. Mais innocent aussi, c'est un nom que j'adore.
Merci. Pour moi, appeler aux auditeurs que sur le coup de 12 heures,
pour moi, c'est pourrez... Le centrisme, même au niveau du nom.
Merci. Après, les auditeurs pourront entrer en ligne en composant le 22 21 33 74 ou bien le 91 36 63 75. Vous savez, vous pouvez faire des commentaires sur les sujets dont nous débattons ou bien poser des questions à l'un ou à l'autre. Alors, sans transition, monsieur le député, il est 11h30. Et à 19h, nos éperviers nationaux vont affronter les étalons du Burkina Faso. Ce sera dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. C'est vrai que nos éperviers ne sont pas en très bonne posture, ce qui fait que le confrère, le bâtisseur écrit aujourd'hui: alarmant enchaînement des défaites de l'équipe nationale de football du Togo. Devrait-on exorciser le nid des éperviers? Ça, c'est la question que se pose le bâtisseur. Quant à l'Union, il colle au manche et écrit: match décisif du Togo face au Burkina Faso, ce sera ce soir, pendant que Miroir Info lui écrit Togo, Burkina Faso, les éperviers seront en Côte d'Ivoire. 3 points de suspension. Alors, monsieur le député, à quelques heures de ce match, quels sont vos sentiments à l'endroit de nos éperviers?
Au vu du match de la semaine passée, je crois qu'il y a espoir. Nous avons vu quand même une équipe qui jouait bien au ballon. On a vu pratiquement tous les compartiments bien se comporter, mais au niveau de la finition, nous avons beaucoup péché parce que nous avons eu beaucoup d'occasions. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que nous soyons efficaces. Il suffit d'être efficace parce que vous ne pouvez pas jouer un tel match et ne pas gagner. Mm-hmm. Parce que si vous jouez un tel match, vous ne gagnez pas. Mais vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas qualifié, c'est tout. Donc au moins, nous avons réussi à refaire l'équipe. Il y a de nouveaux qui sont arrivés. Je crois, moi, personnellement, ça c'est mon opinion propre. Je pense que dans la durée, il y a beaucoup d'espoir. Il y a le championnat qui est relancé. Il faut aussi que nous puissions faire confiance à notre championnat local, que nous puissions donner les moyens pour que ce championnat... Parce que quand vous voyez des équipes comme le Maroc réussir à battre le Brésil,
oui.
Mais vous vous posez la question, quand vous voyez le Sénégal, les 3 dernières années, ils ont tout gagné. Donc, ça vient d'où? Ça vient du championnat d'abord. Ça vient des infrastructures, ça vient des acteurs, ça vient du professionnalisation du sport. Donc ça, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Il y a eu la loi sur les sports. Et moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je salue quand même le travail de Madame la Ministre qui est en train de poser les jalons, qui est en train de poser les bases pour que nous puissions tendre vers cela. Mais il nous faut du temps. Les bonnes choses, ça prend du temps. Quoi qu'on dise, les bonnes choses, ça prend du temps. Donc ce soir, moi, je souhaite la victoire parce que s'il n'y a pas de victoire ce soir, c'est carrément l'élimination. Donc je souhaite la victoire. Mais nous, au niveau du public sportif togolais, nous avons raté 2 cannes. Pour nous, il est imaginable, il est inimaginable que nous ne serons pas en Côte d'Ivoire. Mais quand vous jouez au football, il n'y a pas de... c'est le terrain.
C'est le terrain, la loi du terrain est assez dure. Après les 3 premiers matchs, le Togo est bon dernier de sa poule avec 1 point, alors que le Burkina a 9 sur 9. Le Cap Vert 4 points et puis Eswatini 2 points, mais j'ai consulté les connaisseurs qui disent que mathématiquement, si le Togo arrive à remporter les 3 matchs, à savoir le Burkina aujourd'hui et prochainement Cap Vert et Eswatini, si on remportait les 3 matchs restants, on pourra avoir la chance de se qualifier, être classé au moins deuxième. Eh bien, Montoso, comme supporter des éperviers, comme aimant le football et comme nationaliste,
oui,
espérons surtout que les éperviers nous créent cette belle surprise-là.
Nationaliste surtout, parce que, comme le disent les plus grands amoureux du foot, c'est la seule religion qui nous unit, nous tous, à un moment donné, quand politiquement on ne s'entend jamais, quand... sur le plan religieux même, on ne s'entend pas, au moins sur le plan footballistique, nous arrivons toujours...
Et sur le plan économique également.
Oui, oui, oui. Au moins sur le plan sportif et plus particulièrement du football, on s'entend. Mais oui, il faut quand même avoir cet orgueil, il faut encore avoir cet orgueil de se dire togolais. Face à des situations aussi délicates, face à des situations aussi compliquées. Mais quand le Togo aligne quelques victoires sur victoires en général, à la veille ou le jour comme ça, nous voyons presque tous les citoyens arborer des petits drapeaux. Malheureusement, on ne sent rien. Vous voyez, quand vous regardez un peu en ville, il y a une forme d'indifférence.
La victoire a toujours une grande famille, alors que c'est la défaite qui est orpheline.
On est d'accord, mais je dis... Alors, c'est vrai que ce que je dis peut sembler surréaliste, mais il faut être togolais dans le pire comme dans le meilleur. Il faut quand même faire cet effort. Puisque tu le dis si bien d'ailleurs, mathématiquement, rien n'est encore totalement perdu. Et d'ailleurs, l'honorable a dit, en football, en vérité, 1 + 1 ne font pas 2. Et donc, tout est encore possible, tout est encore jouable. Mais vous savez, il faut remonter un peu l'émission aussi quand même, les missions qui ont été assignées au sélectionneur qui est arrivé, Paolo Duarte. En vérité, il était venu dans une situation très très délicate où notre football était vraiment vraiment à la croisée des chemins. On avait tout le temps décrié l'ancien, le français, etc. Donc, il avait entre autres pour mission aussi de bâtir, de poser des jalons, de construire une équipe. Bon, alors, mais quand vous regardez par exemple nos dernières prestations, en vérité, les matchs étaient à nos portées. On a beau, c'est vrai, on a beau pécher, on a beau manquer de marquer, parce que le football c'est vraiment marqué, on a beau manquer de marquer, au moins, on sent quand même qu'il y a une construction. C'est ça aussi qu'il faut encourager. Plutôt que de commencer par dégainer, de commencer par insulter, de commencer par dire...
Mais autrement dire, donc, rester positif,
en tout cas, il faut rester prendre optimiste.
À ce qui commence à prendre forme et souhaiter que cela continue ainsi. Alors, le député parlait tantôt des sports en général, les infrastructures à mettre en place sur la base d'une politique telle que Mme Besikama est en train de l'implémenter. Mais il a également parlé des centres de formation. Il n'y a pas que le football. Eric, sûrement que tu as suivi dernièrement ce reportage qui est passé sur la chaîne Canal+, et qui a porté sur un centre de formation ici au Togo, le centre Swallows, qui forme dans des disciplines sportives, dont le basketball, dont tu es l'un des fans, Eric.
Bien sûr. Non, ça, moi, je veux recadrer un peu ce débat. Et tout à l'heure, quand on parle de Madame la ministre Besikama, c'est vrai qu'elle veut, elle a une ambition. Mais il faut partir sur de bonnes bases. Ce qui se passe aujourd'hui avec le Maroc qui est arrivé à gagner le Brésil en match amical, ce qui est vraiment impensable, c'est que le Maroc a commencé par mettre en place des structures. On a commencé par créer des centres de formation multisportive dans presque tout le pays. Et on a fait quoi ? On a dit, ok, si nous avons des centres dans chaque région, mais il faut avoir quand même un centre plus performant au centre du pays, c'est-à-dire dans la capitale. Et c'est ce que le Maroc a fait et on est en train de voir aujourd'hui les résultats. Nous n'avons pas assez de centres. C'est vrai que c'est des individus qui, peut-être en association, comme tu parlais de Swallows, des gens qui se retrouvent pour dire « il faut qu'on mette en place une base » pour former les enfants dans le multisport. À Swallows, il y a le football, il y a le basketball, il y a le tennis, il y a le karaté, il y a le taekwondo. Et il y a d'autres disciplines qui vont suivre. Aujourd'hui, Swallows est passé à autre chose. Swallows est devenu une académie. Académie, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont là, qui font une formation études et sport. C'est-à-dire que dès que vous finissez les classes, vous êtes sur le terrain. Et donc, à partir de ce moment, je pense que dans quelques années, on aura les résultats de ce travail-là qui est effectué. Tu parlais du basket. Oui, aujourd'hui, Swallows a au moins 3 récipiendaires qui sont aux États-Unis pour le basket. Et ces jeunes-là sont en train de faire déjà des prouesses. Et là, on est en train d'imaginer que ces jeunes-là peuvent d'un jour à l'autre aller à la NBA, puisque c'est le summum aux États-Unis. Et donc, nous souhaitons cela. Maintenant, quand nous revenons à ce match décisif pour le Togo ce soir.
Dans quelques heures.
Motoso a touché du doigt un problème. Il y a quelques années, quand le Togo a un match, surtout sur place, tout le monde s'arborait en tenue, en jaune, en couleur nationale, pour supporter déjà, dès les premières heures de la journée, pour supporter l'équipe nationale. Aujourd'hui, ça n'existe pas. tout simplement, tu l'as dit, c'est que la victoire est
à une grande famille,
tandis que
la défaite est toujours orpheline.
Tout ça parce que il y a très longtemps que l'équipe nationale n'arrive plus à gagner. On avait estimé que c'est les entraîneurs qui étaient le problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà pour dire qu'il y a un réel problème dans notre football. Le football, à la base, c'est maintenant, la dame est en train de faire des efforts pour que le championnat scolaire, la D2, etc., soit organisé. Et elle pense même professionnaliser le football au Togo. Je dis ça, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que les bases ne sont pas encore posées pour qu'on aille à une professionnalisation de notre football. Toutefois, nous serons tous au stade ce soir pour supporter les Éperviers.
Merci. D'aucuns diraient que la charrue, vous me direz, est-ce qu'il faut mettre la charrue devant ou derrière les bœufs? Gardez vos réponses. À partir de 12h30, on se les partagera. Monsieur Kagwara, je reviens à vous. Vous êtes d'abord député. On a parlé de l'essayiste. On a parlé un peu du polémiste, positivement parlant. On a parlé du Togolais aimant le football et au consomme. Mais vous êtes d'abord député à l'Assemblée nationale. Vous êtes député du parti PDP, mais vous êtes en groupe parlementaire net PDP. Depuis le premier mardi du mois de mars, l'Assemblée a ouvert la première session ordinaire de l'année 2023. Nous avons déjà évoqué les projets de texte sur la table de l'Assemblée en général. Alors, vous, député du PDP, dans quel état d'esprit êtes-vous pour aborder cette session parlementaire?
Dans quel état d'esprit? C'est comme d'habitude, nous sommes très motivés. Je crois que cette législature entrera dans l'histoire parce que nous avons fait une réforme en profondeur de notre loi fondamentale. C'est nous qui avons limité le mandat présidentiel. Au moins, ça sera notre actif.
Votre législature?
Oui, notre législature. Notre législature. Ou bien?
Évidemment.
C'est vrai. Mais voilà, donc ça, c'est notre actif, quoi qu'on puisse dire. Bon, maintenant, il y a beaucoup de thèses sur le plan économique, social. Donc, et en fonction de la priorité du gouvernement, nous essayons d'améliorer ces thèses-là pour que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes soient associés à l'élaboration de ces documents pour que quand ces documents viennent, l'application soit plus facile parce que c'est quand même des documents qui sont plus ou moins consensuels. Après, il faut regarder au niveau du gouvernement pour qu'il y ait rapidement les décrets d'application.
Oui.
Qui est le décret d'application pour que. Parce qu'il y a des tests qui sont votés et après, ça prend du temps pour être exécuté. Alors que nous avons besoin de ça sur le plan international, alors que nous avons adhéré à des institutions. Donc c'est là où il faut avoir beaucoup plus de célérité. Sinon, au niveau des commissions, au niveau du Parlement, je crois que c'est un travail de qualité qui se fait et dans la rapidité des fois.
Eh bien, député PDP, groupe parlementaire net PDP, mais vous êtes. Très petit devant la forte majorité unie et alliée. Alors, quelle est votre liberté de manœuvre du groupe parlementaire PDP net devant la forte majorité unie?
Vous savez, c'est pas la quantité qui fait l'efficacité. Ou le vous pouvez être seul, mais votre voix peut porter. Donc, nous savons ce que nous représentons et nous faisons nos contributions quand il y a des travaux. Donc, nous ne sommes pas marginalisés. Et le travail parlementaire, c'est un travail de consensus, réalité. C'est pas parce que vous êtes seul, si on doit vous écouter sur une question, on vous écoute. C'est le dialogue permanent. En fait, le couloir du Parlement, c'est pour ça qu'on appelle Parlement. Le couloir du Parlement, ce que ça fait, c'est pas les débats qu'on voit sur les chaînes. Parce que dans le couloir, on discute. On arrive à des consensus. Sur un test qui n'a pas besoin de trucs... Que vous soyez seul, que les gens soient plus de 5, vous avez la même compréhension des choses. Si c'est un test sur les droits qu'on doit accorder aux enfants, sur la lutte contre le sexisme, les grossesses précoces, que vous soyez seul, que les gens soient 50, c'est pratiquement les mêmes choses que vous demandez aux législateurs.
c'est pratiquement la même chose que vous demandez au gouvernement, mm-hmm. après pour l'application. Donc ça, nous, que nous soyons seuls, mais rassurez-vous, nous serons plus nombreux lors de la prochaine mandature. Donc.
Mm-hmm. Alors, justement, je rappelle que cette année 2023 est vous, une année électorale.
Parce que vous appréciez le travail que nous faisons, donc oui. Je suis sûr que vous nous ferez plus confiance.
Eh bien, justement, nous sommes en année électorale cette année 2023. Votre parti, vous préparez déjà comment vous préparez-vous à aborder les élections législatives et peut-être même régionales?
Avec notre méthode, les Togolais commencent par nous connaître. Le calme, sérénité, mm-hmm. stratégie et dire la vérité.
Calme, sérénité, stratégie et dire la vérité.
La vérité.
La vérité, parce que le discours la vérité ou votre vérité?
Non, la vérité. Parce qu'elle vous rattrape. Quand votre discours change au gré des événements et des opportunités en matière politique, ça vous rattrape rapidement. Parce qu'après, il faut justifier votre résultat. Oui, mm-hmm. il faut justifier. Je n'ai pas la prétention d'être le numéro 1, la première force ou la deuxième ou la troisième. Non, moi, je les laisse se battre. Moi, je suis en train de construire mon discours. Je suis en train de construire mon identité. Je suis en train de construire mon projet. Et nous aurons plus de députés. Nous voulons être dans la chambre haute qui est le Sénat. Et nous sommes en train de faire notre chemin pour que nous soyons en capacité, au niveau de notre discours, au niveau de notre projet, au niveau de l'équipe qui va nous entourer, d'être en position de pouvoir assurer l'alternance en 2030. Donc, notre discours est cohérent. Merci. Il est cohérent.
Et Eric Papoudio?
Oui, monsieur le député, vous venez de dire que vous discutez, et vous échangez dans les couloirs. Et pourtant, les Togolais, hein, quand nous écoutons les gens, et ils pensent que vous êtes en réalité une béquille du parti au pouvoir.
De la majorité unie.
Oui, mais comment ça se fait?
Non, mais vous savez, personne n'est béquille de qui que ce soit. En politique, il n'y a pas de béquille. Personne n'est. Chaque parti, c'est en fonction de ses intérêts. Qu'on arrête de dire ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas en politique. Vous pouvez voir des gens se battre aujourd'hui, demain, se retrouver. Même en France, ça existe. Personne n'est béquille de personne. Donc, si parce qu'on a participé aux élections, les gens sont béquilles, donc tous ceux qui viendront en 2023 seront des béquilles. Tous ceux qui viendront en 2023, parce que qu'est-ce qui a changé entre-temps? Tous ceux qui viendront en 2023 seront des béquilles.
Si on vous taxe de servir de béquilles,
oui, donc
on pourra coller
tous ceux qui viendront.
Caricature
à mais c'est clair, viendrait. C'est clair, parce que là même c'est pire. Là vous n'avez rien, vous venez. Donc qui est béquille? Non, quand vous aviez quelque chose, c'était plus ou moins équilibré, vous avez refusé que les autres sont béquilles. Là vous n'avez rien, parce que vous risquez de vous faire massacrer. Mais quand même vous venez, qui est béquille?
Eh bien, nous verrons en temps opportun. Montez-en.
Mais ça, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression que la citation même du jour nous rattrape et nous suit le long de l'émission. Parce que un Parlement, par définition, c'est un haut lieu, justement, de ralliement, où, justement, on fait des efforts pour créer des ponts, tisser des passerelles, malgré les différences. Et vous le défendez si bien, malgré vos différences, vous réussissez dans les couloirs à vous entendre. Mais, honorable, on constate quand même qu'il y a des sujets en eux-mêmes qui sont très, très clivants. Moi, je vais aller dans le concret. C'est vrai, ma question tire un peu sur la question de mon confrère Eric, mais je prends un exemple palpable. La question du rapport Covid, qui est un rapport très clivant. Ce qui s'est passé en vérité au Parlement n'a pas donné satisfaction à beaucoup de Togolais. Et on est bien d'accord.
Non, on n'est pas d'accord.
Alors, en tout cas, il se trouve
non,
quand même
financé,
que...
Non, financé, moi je vais vous répondre.
Il se trouve que dans l'opinion, les attentes étaient malheureusement déçues par rapport à ce qui... Alors, mais quelle a été d'abord votre position à vous et sur quoi vous avez été amené peut-être à vous entendre avec la majorité sur ces questions, la question de ce rapport, justement.
Non, on ne s'est pas entendu sur la majorité. C'était une question. Il n'y a pas eu de vote. Il faut comprendre le fonctionnement des institutions. Sur cette question, ce n'est pas une loi. C'est le gouvernement qui a demandé. Nous avons fait la pression parce que l'opinion a fait la pression. Ça fusait de partout. Et on a demandé que le gouvernement vienne s'expliquer. Mais
c'est vous qui avez demandé?
Non, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Il fallait attendre notre session pour qu'ils viennent. Mais maintenant, c'est eux-mêmes qui ont souhaité venir, puisque nous étions en vacances parlementaires.
Eux-mêmes, ils ont saisi le bureau du Parlement pour dire, nous voulons venir nous expliquer. Nous voulons venir nous expliquer. Et nous, on les a reçus. Sur un certain nombre de questions, moi, je vous parle de ma compréhension des choses. Mm-hmm. On nous a expliqué clairement que un logo n'a pas pu coûter 15 millions. Le logo a coûté 150 000. C'est un prestataire qui a inclus dans sa prestation un certain nombre de choses.
Mais ça,
et nous avons demandé, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit comme ça dans le rapport? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas répondu avec toutes ces pièces-là?
Monsieur Kabora, ça c'est un détail. Il y en a des milliers dans ce rapport. Mais pour l'ensemble,
oui.
Hein, vous comme député, vous député Kabora, oui. Comment avez-vous compris d'abord la démarche du gouvernement qui a demandé à s'expliquer devant vous les discours que certains ministres ont tenus sur le rapport et même sur la Cour des comptes?
Je suis un homme qui fait un débat, qui ne fait jamais de débat passionné. Et je ne suis pas quelqu'un à qui on peut faire dire des choses. Non, je ne suis pas ce genre de personne. il faut retenir, ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que les institutions de la République fonctionnent. Les institutions de la République fonctionnent. Ça veut dire que le gouvernement gouverne. Ça veut dire que la Cour des comptes contrôle, audite. Ça veut dire que le Parlement exerce le contrôle parlementaire sur le gouvernement. Toutes les institutions ont fonctionné. Il revient parce que c'est pas le Parlement ne poursuit pas le gouvernement ou ne va pas dire... Non, toutes les institutions fonctionnent. Il revient à celui à qui le rapport sera adressé, à qui de droit, de pouvoir prendre toutes les conséquences par rapport à ce rapport. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Je pense que tout le monde a joué son rôle. Maintenant, vous avez mon opinion à moi, il y a eu des irrégularités qu'il faut corriger dans le... Parce que en fait, c'est un audit de conformité. C'est pour voir si les règles ont été respectées. Les règles n'ont pas été respectées, on demande aux gens de se corriger.
Oui.
C'est tout.
Alors, monsieur Kabora, on a écouté également la sortie de votre camarade, de la même coalition parlementaire, Thierry Tamant, sur les réseaux, la façon dont il s'est exprimé. Maintenant que vous êtes en pleine session, est-ce qu'on peut s'attendre que député Kabora ou un député du groupe parlementaire NetPDP repose le problème de ce rapport de la Cour des comptes?
Non, je ne réponds pas à ça. Ce que l'honorable Tamant dit, ça n'engage que lui. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Mm-hmm. Vous me posez des questions par rapport à ce que je dis, je vous réponds.
Oui.
Vous lui posez des questions.
Mais comme vous êtes du même groupe parlementaire.
Vous lui posez des questions par rapport à ce qu'il dit, il vous répond. En ce qui me concerne, il y a eu des irrégularités. C'est un audit de conformité. Il faut que les institutions sachent comment travailler. Et ce que vous reprochez aux gens, il faut que vous-même vous puissiez vous conformer. Et nous avons fait des recommandations en ce sens-là au gouvernement pour que ça ne se répète plus. D'accord? Et il faut attendre les rapports des années suivantes pour voir est-ce qu'il y a eu des justificatifs qui permettent de corriger l'ensemble de ces carences-là. Donc moi, pour moi, voilà. Donc à aucun moment... quand on parle des comptes Timoni et Flouze, moi-même j'avais mon explication parce que c'est un compte virtuel. Les techniciens du ministère de l'économie numérique n'ont pas. C'est un compte de trésor. C'est le trésor qui ouvre ces comptes-là auprès des opérateurs, un peu comme comment j'ouvre Flouze ou j'ouvre Timoni. Donc, en réalité, il y a un certain nombre de choses. Si vous avez un niveau de compréhension, vous allez à l'information, vous avez. Mais ce que le rapport dit, ce n'est pas bon pour le gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de tirer les conséquences d'un tel rapport pour que ça ne se reproduise plus. Et s'il y a des conséquences, c'est au chef de l'État de prendre ses responsabilités.
Merci beaucoup. Alors, lequel gouvernement s'est retrouvé à Kpalime le week-end dernier pour tenir son premier séminaire au titre de l'année 2023? Les journaux en parlent encore aujourd'hui. Hein, Vision d'Afrique, Miroir Info, Le Bâtisseur. Et également ton journal L'Union qui écrit que ce séminaire a été l'occasion pour le gouvernement de faire une revue de la feuille de route et de procéder à des ajustements. Et vous rappelez, Eric, que Fonia Singbe a exigé de ses collaborateurs des réalisations à impact direct sur les populations. L'article a rappelé la feuille de route gouvernementale avec... c'est 42 projets, c'est 3 axes, tout en laissant le sens aux auditeurs de lire l'article. Un petit commentaire, Eric?
Oui, et d'abord, je voudrais dire les propos du chef de l'État. Vous savez, pour une fois, j'ai senti un chef d'État quand même pragmatique en se référant à la conjoncture généralisée dans le monde entier. D'abord, il dit que nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont aujourd'hui en économie de guerre. Ça veut dire qu'ils font face plutôt à l'Ukraine, aider l'Ukraine et produire des armes, produire des munitions pour aider l'Ukraine, que de faire face à ce que nous subissons comme pauvreté. Et donc, le chef d'État dit, il faudrait que nous nous occupions de nous avec les moyens de bord. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes partenaires financiers que nous avons, mais qui ne nous regardent plus. Donc, nous avons quelques financements qui sont là, et donc nous avons nous-mêmes ce que nous produisons. Il faut qu'on fasse tout pour pouvoir faire des réalisations avec des résultats probants directement sur les populations. Il faut que les populations ressentent tout ce que nous avons mis en branle comme projet et qui doivent forcément aider ces populations à sortir de leur précarité. Et donc, je crois que si nous prenons les 42 projets, comme tu l'as annoncé, et regroupés en trois axes, quand nous prenons tout ça, nous regardons qu'il y a des projets qui sont lancés. Aujourd'hui, à mi-parcours, c'est-à-dire on a fait déjà 50% du temps de la période qui est réservée, on a dit feuille de route gouvernementale 2020-2025. On est en 2023. Ça veut dire que logiquement, 50% des projets doivent déjà avoir des impacts sur la population. Mm-hmm. Est-ce que c'est le cas? C'est là où le chef de l'État dit, je veux désormais que vous alliez encore plus vite pour que les populations puissent sentir tous les efforts qui sont faits.
Justement, monsieur le député, nous sommes à mi-parcours de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est la feuille de route du gouvernement, hein. Mais quelle est l'évaluation que le député Kagbara peut faire sur cette feuille de route?
Il y a des points positifs. Il y a d'autres domaines où il faut accélérer le rythme parce que nos concitoyens se plaignent. Nous, en ce qui nous concerne, on ne dira pas plus. Maintenant, il revient à l'ensemble de nos compatriotes dans les urnes de voir est-ce que le travail que le gouvernement fait, est-ce que c'est un travail satisfaisant? Si ce n'est pas un travail satisfaisant, de nous faire plus confiance pour que nous puissions relever les défis.
Merci. Nous allons terminer par le dernier sujet avec les médiateurs de l'espace UEMOA qui sont en assemblée extraordinaire chez nous à Lomé depuis hier. Ils débattent d'un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, des journaux comme l'Union, comme Vision d'Afrique, comme Audience nous le rappellent. Dire que les médiateurs et médiatrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui président cette institution, débattent du thème état des lieux de la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA. Quelles approches pour les médiateurs? Eh bien, ces honorables dames et messieurs sont conscients de la recrudescence de la violence et de l'insécurité du fait de la montée en puissance de la criminalité transnationale organisée ainsi que des actions des groupes terroristes dans la région ouest-africaine. J'ai écouté Mme Awanana d'abord dire que eux, les médiateurs de la République, sont les conseillers des gouvernants, mais en même temps les oreilles des populations. Voilà ce rôle assez délicat que jouent ces honorables dames et messieurs en se retrouvant chez nous ici. Bonjour, ça.
Mais quand Eric parlait tout à l'heure justement des crises évoquées par le chef de l'État pour dire qu'il faut agir sur les leviers, justement en ce qui concerne cette feuille de route gouvernementale, mais il ne faut pas du tout omettre que la crise sécuritaire à laquelle nous faisons tous face dans la sous-région ouest-africaine compte pour beaucoup. Ah mais ça, c'est très important parce que les djihadistes ou les terroristes, tout dépend des terminologies et des approches, mais ils occupent même des espaces cultivables. ils empêchent les producteurs d'aller produire, etc. Ça, c'est une crise aussi importante. Mais quand le chef de l'État dit justement, dans le cadre de ce séminaire gouvernemental, qu'il faut agir sur le levier, voilà par exemple. Et entre autres, n'oublions pas qu'une crise sanitaire aussi importante est venue, nous surprend tous, alors que le Togo justement brandissait entre-temps un plan national, un prestigieux plan national de développement. C'est pour ça, ça veut dire que plusieurs autres crises peuvent toujours nous surprendre. Et donc, il me semble qu'il est vraiment important d'aller au plus vite, hein, et en tout cas de travailler autant que possible à supprimer les barrières, ces handicaps-là, qui empêchent généralement, ces lourdeurs qui empêchent généralement dans nos pays de faire avancer les projets. C'est important, le député l'a dit, nos populations souffrent. C'est un député qui le dit, un député, c'est-à-dire un élu du peuple, mais qui est proche de sa base, qui est proche justement de la base, qui le dit. Mais venant d'un député, moi, pour moi, ça vaut tout son pesant d'or. Nos populations souffrent. Ça, c'est pas nous, c'est le député qui le dit. Et il faut en tenir compte.
Et Eric Johnson, sur cette assemblée qui rassemble les médiateurs, médiatrices de l'espace UMOA, avec nos pays qui sont confrontés à ces crises qui n'en finissent pas. Dans un environnement mondial déjà très défavorable, pour ne pas dire hostile.
Oui, hostile à tout développement. Parce que déjà, lorsque l'on présente un tableau où l'insécurité domine tout, il faut savoir que la pauvreté ira grandissante. C'est pour ça le rôle des médiateurs aujourd'hui est très important. En Assemblée générale, ces médiateurs sont vraiment conscients de la situation. C'est pour ça qu'ils ont basé leur Assemblée nationale sous le thème de la sécurité dans l'espace UMOA. Je crois que s'ils arrivent à trouver quand même un consensus général, je pense que dans leurs pays respectifs, ils iront toucher du doigt, parce que qu'est-ce qui se passe? On est conscient que tout est parti du Sahel. Et donc, pour résoudre ce problème-là, il faut partir du Sahel. Il y a une communauté qui s'est trouvée lésée et qui a sorti les armes. Et ça s'est amplifié dans toute la sous-région. Et donc, si on arrive à mettre à table ces gens-là et les gouvernants, je pense qu'on aura déjà résolu une grande partie de cette situation.
Nous allons terminer la première partie en recueillant l'avis du député Innocent Ouledia Kagbara sur la médiatrice de la République du Togo, Madame Awanana. Elle est à la fois médiatrice, elle est également présidente du HCRUN. Vous parlez tantôt du fonctionnement des institutions du Togo où chacune essaie de faire sa part. Si je vous demandais quel est le regard que vous portez sur les actions de Madame Awanana Daboya, à la fois comme présidente du HCRUN et comme médiateur de la République. Monsieur Kagbara.
Médiateur de la République, elle vient de commencer. Attendons de voir. HCRUN, je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait. Est-ce qu'on peut dire pour autant que les objectifs qui lui sont assignés ont été atteints? Je ne sais pas. Je ne saurais juger, mais bon, c'est une dame qu'on connaît, on connaît son professionnalisme autant au Togo qu'à l'international, donc a priori, oui, c'est bon.
Merci. Mais pour ne pas dire que les 411 employés de l'ex-usine textile Togotest de Dacha ont été indemnisés avec leurs ayants droit. Mais j'avoue que cette usine qui a été fermée depuis 1990, on a vu des gens mourir. Et leurs enfants, les orphelins sont là, laissés à eux-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, grâce à la CVJR qui a donné quitus au HCRUM d'indemniser les victimes des violences, et tout ça là a réussi à indemniser les 411 employés laissés pour
compte. Ces 411 personnes ayant droit qui viennent s'ajouter à toutes les personnes que le HCRUM aide à dédommager. Hein, les victimes des différentes phases de nos différentes périodes de crise.
C'est pour ça que je disais a priori, oui. Aussi bien sur la personne, sur la compétence de la personne, il n'y a pas matière à redire, aussi bien sur ses actions. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on a pu atteindre les objectifs? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire.
Merci. À partir de cet instant, les auditeurs et auditrices pourront entrer en ligne et composer le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Nous vous prions juste de vous intéresser aux questions, aux sujets débattus. Là, vous avez toute la liberté d'émettre vos commentaires ou de poser des questions à l'un des confrères ou à notre invité aujourd'hui. Déjà, le premier auditeur, bonjour.
Salam alaikum, monsieur Sass.
Monsieur Waris.
Je salue le plateau.
Nous vous saluons bonjour aussi.
Bonjour à l'honorable Kagbara.
Oui, Kagbara ou le Dja innocent.
Merci beaucoup. Mm-hmm. Bon, et concernant le match décisif que nous avons aujourd'hui,
oui.
Je pense que tout est encore possible. Le Togo va gagner 2-0.
Mm-hmm.
Mais, oui, mais pour que cette victoire soit une réalité,
oui.
je demande à toute la population à se rendre massivement le point du match, hein, envahir le terrain de le stade de Kégué.
Non, plutôt envahir les gradins et pas la pelouse.
Voilà. Pour qu'on puisse pousser plus haut, plus loin, plus fort nos étudiants. Maintenant, je vais exhorter également la FTF,
oui.
De faciliter la tâche à tous les supporters.
Mm-hmm.
Hein, de faire partie. Et peu importe le pays choisi par la CAF ou la FTA, la FIFA, puisque j'ai fait cette remarque au match aller au Maroc, vous allez constater que les joueurs avaient senti, hein, avaient manqué la présence de leurs supporters sur le terrain.
Moi, merci. Maintenant, le match se joue chez nous ici. Je pense que les supporters seront nombreux à pousser les éperviers et que M. Waris sera le supporter numéro un aujourd'hui.
Pour sortir, je ne sais pas, avec l'histoire des 25 millions que réclame le vieux, je ne sais pas où en est.
Non, M. Waris, revenons sur la question vraiment sérieuse, hein, à savoir cette communion à laquelle vous appelez autour des éperviers. Je crois savoir que vous serez vous-même au terrain, M. Waris.
Je suis déjà à Lomé, M. Sass.
Ok, mais être à Lomé, c'est une chose. Mais être au terrain en 19h, ce sera une autre chose. Merci. Également, c'est important de rappeler que si on veut aller au stade, le match va commencer à 19h, mais le bon supporter doit aller beaucoup plus tôt, hein, prendre place avant que le match ne commence pour éviter d'éventuels échauffourées, débordements à l'entrée du stade. Voilà, le deuxième auditeur, bonjour.
Alors, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
Monsieur Kossi de Sabado.
Kossi de Sabado, nous vous écoutons.
Oui, je vais rebondir sur le match de ce soir.
Oui.
Il n'y a pas passé. Moi, je n'avais pas suivi le match. Un frère est venu me demander. Je connais le score. J'ai dit non, je n'ai pas connu le score parce que je n'ai pas suivi le match. Le lendemain, le frère est venu me dire que c'est que on n'a pas gagné. J'ai dit moi, je ne suis pas en train de ça pour avoir mal au cœur. Donc, il n'a qu'à faire de ne pas le dire. Ce soir,
oui.
Je vais aller au terrain.
Merci.
Je vais dire que, à l'honorable, que si on va au terrain ce soir, on ne gagne pas. Ils n'ont qu'à s'arranger pour nous payer nos tickets.
Non, c'est pas le député qui organise le match, hein.
Oui, je sais. Le député n'a pas dit à l'Assemblée nationale que si ce sont au terrain, on ne gagne pas.
L'ami Kossi, situons les responsabilités. C'est le match de la fédération et du musée des sports qui l'ont confié à l'organisation Sergio Sport. C'est pas le député qui organise.
Je sais, M. Sass, notre parlement là, ils, à la fin de leur mandat,
oui.
Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont fait à notre fédération? C'est là mon problème.
Ok. Merci. Alors, monsieur le député, vous voulez lui répondre à chaud?
Oh, ben, vous savez, nous avons voté la loi sur le professionnalisme du sport, donc on nous avons donné l'arsenal juridique à Madame la ministre pour pouvoir travailler. Donc nous sommes législateurs, c'est ce que vous-même, hein, les Togolais, c'est ce que vous avez choisi comme constitution et mode de fonctionnement, et c'est ce que nous suivons. Mais de manière personnelle, c'est vrai que nous sommes préoccupés par l'organisation du sport au Togo. Et vraiment, comme l'a dit mon cher ami, vraiment, c'est une religion. C'est une religion. Et ça nous réunit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de passion dans le sport. Et les gens ont raison. Parce que quand ça marchait, ça nous unissait. Maintenant, comme ça ne marche pas, il faut situer la responsabilité. Et nous avons aussi.
Et repartir de l'avant. Voilà. Merci, monsieur le député. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui.
Ça va, Didier.
Ah, Didier?
Oui.
Nous vous écoutons, bonjour. Didier. Oui.
Ouais, d'abord, je souhaite bonne chance aux hôteliers. Évidemment, je parle de médecine sur le stade. Et secondo, je voulais poser une question à notre honorable.
Il vous écoute.
Le débat là, bon, ça m'a fait tellement rire. Je riais seulement ici. Si vous êtes à côté de moi, vous allez voir.
C'est une bonne chose que vous riez plutôt que de pleurer, oui, monsieur Didier. C'est thérapeutique.
Bon, je voulais lui poser une question. J'espère qu'il va répondre, qu'il me l'a fui toutes vos questions. Oui, effectivement. Okay. J'espère qu'il va répondre à mes questions. Il va pas.
Ok, posez-la, s'il vous plaît.
Quel est, bon, en tant que député, quel est son regard sur l'action du gouvernement? Est-ce qu'il est satisfait? Secondo, quel est son regard, le regard de son groupe parlementaire? Est-ce qu'il est satisfait de la réponse du gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes? Si oui, j'en passe. S'il n'est pas d'accord, quelle action il compte mener à l'avenir?
Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Le député prend bonne. Il a pris note, ça. Il a noté vos questions. Il va vous répondre. Monsieur le député,
je réponds.
Oui, réponse à l'ami Didier.
Non, mais je pense que peut-être que quand je répondais, il n'était pas branché sur la chaîne, donc peut-être qu'il ne m'a pas vraiment bien suivi. J'ai dit, je ne suis pas totalement satisfait. Je ne suis pas de ceux qui vont venir en tant qu'opposants s'asseoir ici, insulter le gouvernement, se lever, partir. C'est ce que les Togolais attendent. Mais vous avez fait ça pendant 30 ans, ça n'a rien changé. Mais essayez aussi notre méthode. Vous avez fait ça pendant 30 ans, ça n'a pas changé.
Et votre méthode, c'est...
Notre méthode, c'est le centrisme, c'est de dire, nous allons accompagner le gouvernement quand il pose de bonnes actions, nous critiquons, nous sommes le seul groupe parlementaire à faire des interpellations. Avant notre législature, je n'ai jamais vu. Montrez-moi les documents où des gens ont fait des interpellations. Il n'y en a pas. Donc c'est nous qui interpellons le gouvernement. Si nous étions totalement satisfaits, pourquoi nous interpellons autant? C'est notre groupe parlementaire qui interpelle le plus. Comparez toutes les législatures. Mais je vous invite, si possible, le gars, je l'invite au Parlement. Qu'il vienne, qu'il me prouve, qu'il me donne les documents où les gens ont interpellé comme nous. Il n'y en a pas. Donc, c'est nous qui animons le débat.
Et il est aussi revenu sur le rapport d'audit de la Cour des comptes.
J'ai déjà répondu. C'est un rapport sur la conformité. Il y a eu des irrégularités. On demande de corriger. Ils n'ont qu'à corriger. Maintenant, il revient au chef d'État de prendre ses responsabilités. Je ne fuis pas la question. Je suis là.
L'auditeur.
Je suis là. Et ceux qui fuient les débats, moi, je ne fuis pas les débats. Merci. Moi, j'aimerais, par exemple, me retrouver avec
La C14, je ne sais pas si elle existe toujours. Mais on vous trouvera.
Non, c'est une manière de dire.
On vous trouvera un débatteur.
Non, c'est une manière de dire que je ne fuis pas.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, allez-y.
Je pense qu'il y a quand même, que vous nous revenez, après, il y a les. Je suis désolé comme un gars qui pendant longtemps, pendant que. L'invité en train de parler. Bon, ça, c'est juste une parenthèse.
Vous avez dit que l'invité parlait, justement. Vous ne pouvez pas parler deux en même temps à la fois.
Je crois
maintenant, allez-y avec votre question.
Est-ce que... Nous savons quand même que, c'est vrai, ils ont interpellé, ils sont le groupe parlementaire qui interpelle le plus. Mais on n'a jamais entendu un député de leur groupe sur les antennes dire que tel ministre a été interpellé. Et il a refusé de venir, alors que nous savons que ça se passe à chaque fois. Est-ce qu'ils sont une fois venus devant leurs électeurs pour dire qu'ils ont interpellé tel ministre sur quel sujet et que le ministre a refusé de venir? Ou bien vous vous contentez de voilà, si le ministre le puis, ne peut pas le dire. Deuxième sujet.
Oui.
En réalité, quand on voit la main dont il répond aux questions, un auditeur précédent l'avait dit, bon. On ne s'étonne pas de la manière dont les choses se passent au Parlement aujourd'hui. C'est à cause de tout ça qu'on se dit, bon, est-ce que réellement on a des députés qui représentent réellement la population? Quand on voit réellement la manière dont ils répondent aux questions, bon, ça laisse à désirer. Et le dernier point sur lequel j'aimerais dire, en tout cas, on ne peut que remercier le président pour ses discours aussi creux que possible. Mais de toute façon, il y aura toujours des gens pour défendre ses discours creux. Et on comprend bien pourquoi les journalistes les plus pertinents sont pourchassés pour être mis sous silence. Merci.
Je vous en prie. C'est la preuve quand même que le Togolais peut parler et dire à haute et intelligible voix ce qu'il comprend de la situation. Les députés, vous notez la question. Je reviens le temps que nous recevions l'auditeur qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est monsieur Antoine de Dagoué.
Antoine Dagoué.
Oui.
Bien, nous écoutons.
Je voulais bondir au niveau sport.
Oui.
Bon, je souhaite bonne chance aux éperviers du Togo.
Merci.
Mais il faut que le coach Paolo Doité change Fodo là-bas en attaque. Pour qu'il puisse.
il va vous remplacer par qui, s'il vous plaît?
Il y a Nan Richard qui est là. Il y a le petit de Asco de Cara là, qui est là. Mm-hmm. Pour faire du mal à Fodo là-bas. C'est pour lui faire du mal. Il n'a qu'à rester au banc pour suivre les enfants.
Oui.
Quand l'enfant d'Asco de Cara va rentrer, lui est local. Ou bien locaux, je ne sais pas. Bon. Mm. Il lui va faire
okay. Force. J'espère que Paolo Duarte vous écoute. On verra bien ce qu'il va aligner ce soir.
Voilà, non, je veux que l'enfant d'Asco n'a qu'à jouer.
Ok.
Merci.
Je vous en prie. Encore un dernier auditeur. Il est déjà là, il ou elle. Oui, oui, bonjour l'ami.
Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
C'est monsieur Abdoulaye depuis Dapon.
Ah, notre ami depuis Dapon.
Abdoulaye depuis Dapon.
Abdoulaye depuis Dapon, nous vous écoutons.
Oui. Je salue les plateaux.
Oui.
Je salue le monsieur le député.
Oui.
Oui, bonjour.
Je voulais poser une question au monsieur le député.
Oui. Il vous écoute.
Quel est son avis par rapport au franc CFA qui nous assiste? Parce que.
Oui, l'ami Abdoulaye.
Parce que je n'ai jamais entendu un député togolais parler de ça. Et encore, c'est un problème qui nous dérange trop.
Mm-hmm.
Et je vais parler aussi des éperviers.
Oui.
Je suis d'accord avec mon prédécesseur. Il faut que le Koyaka mette au banc, laisser les joueurs Fodo la place. Oh. Il ne nous fait pas l'affaire.
Ok. Merci. J'espère que Paolo Duarte peut compter sur quelqu'un qui soit en meilleure forme que Fodo là-bas aujourd'hui. Le tout dernier aujourd'hui. Ok. L'ami, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Monsieur Niamavo.
Monsieur Niamavo, nous vous écoutons.
Oui. Je félicite l'homme politique.
Merci. Oui, bonjour, merci.
Là où il a dit, il n'aimerait pas que les gens tirent à boulet rouge sur le gouvernement. C'est bon. Et réciproquement, entre eux opposants, il ne faut pas qu'ils tirent des boulets rouges sur l'un ou l'autre. Et par rapport à l'audit, je le dis souvent, il a même dit que c'est le gouvernement qui a demandé. Il sait qu'il a sa famille à l'Assemblée nationale. Comme on le dit souvent, le linge sale, c'est là-bas en famille. Donc, prochainement, on n'a qu'à penser aussi aux institutions comme la justice. Pour que la justice fasse aussi son travail.
Merci beaucoup.
Quant à ce qui concerne les matchs,
oui.
J'avais dit à une des rencontres ici que si l'œuf n'est pas bien couvert, c'est qu'on ne va pas s'attendre à une bonne éclosion.
Mm-hmm.
Et le jour-là, il y avait un ministre sur l'antenne, je m'abstiens de dire le nom.
Non, vous pouvez, dit, vous pouvez.
Ah, c'était M. Trimoy.
Mm-hmm.
Et j'avais dit que jusqu'alors, le rapport de la dernière CAN n'est pas encore publié.
Oui.
Il a dit que c'est audité et c'est remis à la justice. Jusqu'alors, il n'y a pas une communication autour. Les Togolais sont frustrés. Même si qu'on nous enlève sur nos timonies, nos appels, tout ça là, pour aller à la CAN, ça ne peut pas accompagner, l'esprit là ne peut pas accompagner cette CAN. Hein? Nous tous, on est en train de lutter pour que, aujourd'hui, même les matchs de quartier sont plus intéressants que ce que les éperviers nous produisent. C'est vrai,
Les matchs de Kati.
Merci, l'ami Nyamavo. S'il vous plaît. Oui, il y a le temps, il y a le temps que nous regardons, le temps que, il faut quand même que les députés puissent vous répondre. Oui,
bon, par rapport à ça aussi, je voulais dire que il faudrait que la prochaine fois, le chef de l'État aussi sorte, comme il était allé à Sokodé, vraiment, le jour-là, il va marcher sur 5 km, hein, la dernière fois, il a marché sur 3 km.
Merci. Nous allons commencer à recevoir les députés. L'espoir est permis que le président soit à notre plateau prochainement. Merci, M. Kabouara. Et vous avez écouté les dernières interpellations, questions vers la fin.
Oui.
Une minute pour ramasser.
Ou sinon, je crois que...
Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tous les ministres répondent à vos interpellations? Sinon, qu'est-ce que vous faites à l'endroit des ministres qui ne daignent pas répondre?
On en parle, en fait. Les gens attendent de nous qu'on fasse comme les autres. Et je dis, nous sommes nous-mêmes. Nous, on ne fait pas comme les autres. On interpelle.
Mm-hmm.
Ceux qui doivent répondre, ils répondent. Ceux qui ne doivent pas répondre, on relance le gouvernement. Et de plus en plus, nous avons maintenant des réponses.
Mm-hmm.
Au début de la législature, c'est vrai que certains ne nous répondaient pas. Mais maintenant, tous répondent.
Mm-hmm.
Donc, le fait de venir dire ici que tel ou tel n'a pas répondu, ça change quoi au débat? Ça ne change pas au débat. Nous, le sujet que nous avons soulevé, si on arrive à trouver une solution à ce sujet... Nous, nous sommes gagnants, c'est tout.
Mm-hmm.
C'est pour le bénéfice de la population.
Okay.
Maintenant, il dit la manière dont je réponds. Bon, ça, quitte à lui de penser ce qu'il veut et de suivre le leader qu'il veut pour avoir le résultat qu'il veut.
Ouais.
Ça m'engage que lui. Parce que les gens ont fait la même chose durant 30 ans. Mais en réalité, même nous, ce que nous disons, marginalisez-nous si vous voulez.
Bah, il a également souhaité que vous fassiez l'économie de certaines critiques trop dures dans les rangs de l'opposition.
Moi, je ne critique jamais mes collègues de l'opposition. Donnez-moi le débat où j'ai critiqué les gens. Mais par contre, ceux qui vont dire, mettre dans la tête des gens de la population qu'on a été nommés, il faut qu'ils reconnaissent qu'eux aussi, ils seront nommés. Non, ça, nous n'allons pas l'accepter. Ça, nous n'allons pas l'accepter. C'est là où ça ne va pas entre nous. Ils n'ont qu'à parce qu'un politicien, c'est quelqu'un qui regarde l'avenir et qui fait attention aux propos qu'il tient.
Merci.
Ces gens n'ont pas de courtoisie. Quand c'est pas eux, ils n'ont pas de courtoisie Merci. Envers les autres.
L'ami Abdoulaye, depuis d'apparence, voudrait vous écouter sur le franc CFA. Le débat sur le franc CFA.
Le franc CFA, il faut faire un débat dépassionné. Il faut faire un débat dépassionné parce que le franc CFA, il faut. C'est juste un constat. Hein? La monnaie, c'est un outil de souveraineté. Nous ne voulons pas que des gens qui aussi ont leur intérêt puissent siéger dans les institutions, dans les instants de décision de nos monnaies, hein, des organes qui gèrent nos monnaies. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut la question de la parité. Il faut qu'on puisse débattre de cette question avec pas du tout de passion. Parce que les zones qui ont partagé le CFA, on a vu quand même qu'il y a eu la maîtrise de l'inflation. Il y a un certain nombre de choses quand même qui sont bénéfiques. Est-ce que c'est lié au CFA? La question est posée. Donc, qu'on aborde cette question avec des gens de manière dépassionnée, qu'on voit nos intérêts et que nous puissions décider. Il faut qu'on aille vers même la monnaie communautaire.
Ouais.
Donc il y a des critères de convergence qui ont été définis et le Togo est l'un des rares pays même à répondre à l'ensemble de ces critères. Donc allons vers la monnaie communautaire pour que nous puissions avoir un bonheur partagé.
Merci également. Le directeur qui a souhaité la reddition des comptes sur les participations du Togo aux dernières phases finales de la Coupe
de la Fédération. C'est notre gros souci. Il faut que nous puissions gérer bien les affaires de la cité. Il y a beaucoup de dossiers. Il faut qu'on commence pas à punir les gens. Beaucoup de dossiers ne sont pas satisfaits. Le sort qui est réservé à ces rapports. Il y a des gens qui ont commis des actes. Il faut qu'ils soient punis. Un peu comme dans tous les autres pays. La chose publique, on ne touche pas. Si vous voulez être riche, vous allez dans le secteur privé, nous allons vous accompagner. Le truc de l'État, vous touchez, vous allez en prison. Vous touchez, vous allez en prison. Il faut que les gens qui touchent se rendent compte que, à tout moment, soit la justice, soit celui qui les a nommés peut se saisir du dossier. Donc, ça, l'administration, il faut que nous ayons une administration propre. Les gens qui travaillent pour l'État, qui sachent que c'est un sacerdoce, et franchement, s'ils veulent être riches, ils n'ont qu'à aller dans le privé, on va les accompagner.
Vous préparez pour votre conclusion le temps que nous recevions les cartons de fin d'émission de Montosso, Dieudonné Korolakna.
Mais avant ma conclusion, je voudrais tout simplement et humblement...
Tu as une minute. Hein.
Ben, rectifier peut-être, rappeler à l'honorable. Il me semble que déjà en 2015, par rapport aux interpellations parlementaires, bien avant vous, il y a eu des députés qui l'ont fait en 2015.
Quelques-uns.
Suite aux événements.
Quelques-uns.
Aux événements de Mango.
Oui, oui.
En novembre 2015, le ministre Yar, qui est le ministre de l'Environnement de l'époque, paix à son âme, le ministre André Johnson ont été interpellés, ont répondu.
Non, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu. Je dis nous sommes ceux qui ont le plus interpellé.
Bon, d'accord. Ok.
Nous sommes. D'accord. Parce que les documents le prouvent.
D'accord.
En 3 ans, j'ai déposé 3 propositions de loi. Cette année, je déposerai encore une proposition de loi.
Merci.
Donc, nous faisons le job.
À la fin, c'est mon tour ça.
Pas de carton.
Ok. Et Eric?
Oui. Non, un carton vert pour les éperviers. Nous serons tous au stade ce soir et pour applaudir, accompagner les éperviers. Et nous restons convaincus qu'au moins, ils vont gagner ce match-là pour nous. Mais attends, je voudrais dire, il y a mon ami Johannes qui a encore lancé un pic là. Donc, c'est pour lui dire tout simplement que le débat, c'est un débat pur, pluriel et démocratique.
Merci.
Si quelqu'un dit quelque chose, tu n'es pas d'accord.
Merci. Député Kagbara, 30 secondes pour votre conclusion.
Vous faites un travail formidable et c'est le lieu vraiment de vous remercier pour le travail que vous faites, qui n'est pas un travail que la récompense n'est pas d'ici, mais souffle que je puisse vous dire que nous apprécions le travail que vous faites et pour nous vous êtes des stars. Merci.
Même si c'est une flatterie, ça nous va tout droit au cœur, à mon Tchosso, Eric, à tous les confrères qui défilent dans ce studio. Eh bien, c'est le député Kagbara Innocent ou le Dja. J'espère que nous allons tous lire son essai, Le Togo, de l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth, et puis l'essayiste, le polémiste, et puis l'homme politique, pour que le débat soit plus riche au jour le jour. Rendez-vous demain, mercredi, à 11h, si Dieu le veut, et le Dieu de Sola, comme le Dieu des concombats, le voudra certainement.